France Culture.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Il y a 773 000 ans, vivaient à quelques encablures de l'actuelle Casablanca au Maroc des individus qui nous en apprennent plus sur nos origines. Des fossiles appartenant à cette espèce d'hominine ont été retrouvés en 2008-2009 dans un site désormais célèbre qu'on appelle la carrière Thomas, et on sait enfin que l'espèce à laquelle ils appartenaient se situe proche du point de divergence entre les lignées de Sapiens, Néandertal et Denisova. Grâce à quelle méthode a-t-on pu dater aussi précisément ces fossiles anciens ? Quel vide cette découverte vient-elle comblé dans le registre fossile africain ? Le débat sur l'origine africaine de notre humanité face aux théories eurasiennes est-il, grâce à cette étude, définitivement clos ? Voilà quelques-unes des grandes questions que nous allons nous poser avec vous, Jean-Jacques Hublin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoanthropologue, titulaire de la chaire de paléoanthropologie au Collège de France. Et vous êtes le co-auteur de cette étude parue dans la revue Nature en janvier 2026, intitulée, si je traduis le titre en français, « Les premiers hominidés du Maroc à l'origine de la lignée Homo sapiens ». Merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler de cette étude très importante à laquelle vous avez participé. On va bien sûr discuter des implications de ces résultats que vous avez publiés dans la revue Nature. Mais avant cela, j'aimerais qu'on donne quelques éléments de contexte sur le site d'où ont été extraits les fossiles analysés. Parlez-nous de cette carrière Thomas qui est aujourd'hui très célèbre dans le monde de la paléanthropologie.
Alors c'est une des nombreuses carrières qui ont été ouvertes dans les environs de Casablanca dans la première moitié du XXe siècle, essentiellement à cause de la construction du port de Casablanca qui a demandé beaucoup d'enrochement. Et donc voilà, ces carrières sont des carrières qui sont situées maintenant à l'intérieur de Casablanca, qui s'est considérablement étendue, et elles ont été exploitées pour une roche, un calcaire, en fait ce sont des dunes cimentées qui sont très anciennes et qui sont propices à la conservation des sites archéologiques et des ossements fossiles.
Est-ce qu'on peut parler justement des particularités géologiques de cette partie-là du continent africain ? Vous parlez de
dunes cimentées. Oui, alors le Maroc, enfin cette portion de littoral atlantique, c'est une des grandes réserves de fossiles de l'Afrique. Hein. Tout le monde a entendu parler des sites de l'Afrique de l'Est, Lucie et d'autres. En Afrique du Sud aussi, on a beaucoup de fossiles. Et donc, le nord-ouest de l'Afrique, le Maroc, c'est une troisième fenêtre sur le passé. C'est lié à des conditions géologiques très particulières. Du fait de la collision entre la plaque continentale africaine et la plaque européenne, le continent africain se soulève tout doucement au cours des millions d'années. Et donc des dépôts qui étaient des dépôts de rivage océanique jadis sont graduellement emportés par une sorte de tapis roulant vers l'intérieur des terres. Et donc on a voilà toute génération de dunes qui se cimentent, la mer se retire, revient, crée des falaises, des cavités qui se remplissent. Donc c'est un processus assez complexe. Mais ce qui est important, c'est que à la fois ces dépôts dunaires cimentés et les cavités qui sont occupées à certaines époques par les humains et remplies de sédiments, ben tout ça forme un complexe de sites absolument extraordinaire.
Ça crée des conditions favorables de conservation de ces fossiles dont on va parler dans un instant. À partir de quelle époque, de quel moment les archéologues, paléoanthropologues sont-ils intéressés à cette carrière Thomas ? En ont-ils fait un lieu de recherche à proprement parler ?
Alors en fait, ces carrières de la région de Rabat, Casablanca, elles donnent des fossiles depuis longtemps. Mmh. Ça a commencé avant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Mais celle de carrière Thomas, en fait, va être révélée, si je peux dire, à la communauté scientifique pour une découverte qui a été faite par un tout jeune homme qui se promène dans la carrière en 1969 et qui ramasse des ossements fossiles et en particulier une mâchoire, une mandibule, qui est une mandibule humaine. Et cette mandibule, elle est au pied d'une grotte qui a été éventrée par l'exploitation de la carrière. Il va la montrer à la faculté des sciences hein, de Rabat. Et donc, voilà, cette mandibule va faire l'objet d'une première publication. À l'époque, on ne sait pas trop ce que c'est, en fait.
Qu'est-ce qui, dans cette mandibule, crée une forme de...
Bah, c'est-à-dire, bon, elle est... les mandibules sont difficiles à interpréter. Dans le milieu, on dit que c'est Dieu qui a créé le crâne, mais c'est le diable qui a créé les mandibules, hein, parce que les caractères des mandibules sont difficiles à interpréter. Donc oui, elle est primitive, elle a des caractères de robustesse qu'on trouve chez des formes anciennes dominines, mais disons que pour aller plus loin dans l'interprétation, il faudrait connaître l'âge, et puis il faudrait aussi mener des études qu'à l'époque, on ne sait pas trop conduire, par exemple, sur la structure des tissus dentaires. Mmh.
Donc, cette découverte qui est réalisée en 1969, elle est réalisée à un endroit particulier du site de la carrière Thomas, qui est un site assez vaste. Il y a plusieurs sites dans le site, il faut le dire.
Il y a, en fait, c'est une carrière, c'est très grand. Mmh. Et dans cette carrière, il y a plusieurs cavités. Donc cette grotte qu'on a appelée la grotte à hominidés, mais il y en a une autre qui s'appelle la grotte des rhinocéros, qui est un jeu de pierre. Et puis il y a dans ces dépôts de dunes et ces dépôts littoraux, il y a aussi des fossiles et des sites archéologiques. Et en particulier à la base de la carrière, il y a un site qui est très célèbre aussi, hein, qui est le plus ancien site acheuléen d'Afrique du Nord-Ouest. C'est-à-dire, c'est un site où on a beaucoup de biphases, de hachereaux, donc des outils de pierre taillée assez spectaculaires d'ailleurs, qui sont au milieu d'ossements de mammifères, d'hippopotames. Et alors, c'est en fait ce site-là qui va être d'abord étudié, surtout par les archéologues. Mmh. Mais dans les années 90, une équipe franco-marocaine qui est dirigée par Jean-Paul Reynal et par Fatima Zora El Alaoui, vont reprendre des travaux dans la petite grotte, là, qui a livré une mandibule. Alors, elle n'est pas très riche, en fait, en matériel archéologique, et on comprendra plus tard pourquoi. Et en plus, c'est assez difficile à fouiller, c'est un sédiment très dur. Et en 2008, donc après pas mal d'années d'efforts continus dans ces sites, une deuxième mandibule adulte va être trouvée dans la grotte.
Et c'est là qu'on fait
appel. Et voilà, c'est là qu'on m'appelle pour la première fois pour venir voir cette mandibule qui est en cours de dégagement. Sous la mandibule, on va trouver des vertèbres qui appartiennent au même individu. Et puis, l'année suivante, en 2009, on trouve une troisième mandibule. Alors là, c'est un petit bout d'os, c'est une mandibule de bébé, un an et demi à peu près. Voilà, et on trouve aussi, pendant toute cette période, des dents isolées. On a trouvé aussi un fémur humain. Alors le fémur humain, il a été étudié par une collègue qui s'intéresse à la faune, hein, parce qu'au début, je pense pas qu'on l'ait reconnu comme humain tout de suite. C'est un bout de fémur humain qui a été manifestement consommé par un grand carnivore, probablement une hyène. Et en fait, ce site de cette grotte, elle est un petit peu particulière parce que ça a été essentiellement en fait une tanière occupée par les hyènes certainement. Les os qu'on y trouve, ils portent beaucoup de traces de dents de carnivores. Mais il y a quand même un peu d'outillage en pierre. Donc les outils en pierre, c'est pas les hyènes qui les ont fabriqués. Donc les humains viennent de façon sporadique quand les hyènes les laissent occuper la grotte. Et donc voilà, il y a ce mélange d'occupation humaine et de d'activité des carnivores.
En 2008-2009, Jean-Jacques Hublin, pourquoi fait-on appel à vous qui êtes en train de travailler à Jebel Iroud, non loin, sur
d'autres sites ? Alors, pourquoi on fait appel à moi ? Parce que moi, je suis un spécialiste de fossiles humains, donc j'étudie leur anatomie, j'essaie de comprendre leur évolution. Les gens qui travaillent là sont des spécialistes des industries de pierre taillée, des géologues, des gens qui travaillent sur la faune, mais c'est vrai que voilà, ils ont besoin d'un expert en humain, si je peux dire. Donc c'est comme ça que je suis impliqué dans ce projet à partir de cette époque.
Quand vous êtes confronté à ces mandibules, à ces fragments de mandibules, quelles sont vos premières réflexions? Quelles sont les caractéristiques qui vous marquent? Quelles questions vous vous posez en les prenant en main, entre guillemets?
La mandibule de 2008, quand on la dégage, ça prend pas mal de temps d'ailleurs, elle est assez bizarre parce que, bon, manifestement, elle est très primitive. Hein, elle a des caractères dentaires et des caractères anatomiques, clairement, qui la rattachent à des formes très archaïques d'hominines. Mais elle est de petite taille, en fait, très petite taille. Et ça, c'est un peu bizarre parce que, voilà, des fossiles qui ont 1 demi-million d'années, même 200 ou 300 000 ans, en général, c'est costaud.
C'est grand, du robuste, hein. Ouais.
Là, c'est pas le cas. Alors après, bon, il y a l'aspect, rationnel, professionnel. Ensuite, il y a aussi un aspect émotionnel. On se trouve face à un être qui a vraiment existé, qui était un humain vivant, qui a eu ses angoisses, ses peurs, ses rêves, sa vie heureuse ou tragique. Et on ne peut pas ne pas ressentir une forme d'empathie et d'émotion quand on est face à des vestiges comme cela. Surtout que faut bien se rendre compte que des fossiles très anciens, disons des choses qui ont plus que 10 ou 20 000 ans, c'est très rare.
C'est très rare.
On en trouve très peu.
Dans cette partie-là de l'Afrique.
On en trouve très peu partout.
Ouais, partout. Hein. C'est vrai que
mais
c'est...
Le Maroc, c'est un endroit où il y a, enfin, d'autres découvertes qui ont été faites. C'est vrai que voilà, ça court pas les rues, hein, les fossiles d'hominines.
Il faut se poser tout de suite la question de la date de ces fossiles.
Alors,
de ces fossiles, quelles stratégies sont envisagées par les scientifiques pour pouvoir estimer l'âge de ces personnes?
Alors, on a un certain nombre de méthodes dans la panoplie, si je peux dire, du petit géologue ou du petit archéologue. Et donc, ce sont des techniques qui sont employées dans d'autres sites. Hein. Il y en a une qui s'appelle luminescence optiquement stimulée, OSL, il y en a une autre qui s'appelle l'ESR. Enfin bref, des méthodes physico-chimiques, plutôt physiques d'ailleurs. Mais, elles ne marchent pas toujours très bien. Et là, en l'occurrence, dans ce site-là, elles ne marchent pas très bien. Et ça, on le voit bien parce que, dans le fond, les dates qui sont proposées par les spécialistes qui utilisent ces techniques ne sont pas très compatibles avec à la fois la géologie du site et puis aussi les restes de faune qu'on trouve, parce que la faune, elle a évolué au cours du temps, hein, cette faune, elle a l'air assez archaïque, en fait, par rapport aux dates qui sont avancées. Et on va rester un peu coincé sur cette histoire de date pendant décennie.
Ça
au
s'explique
moins,
finalement qu'entre la découverte en 2008, oui, 2009 ouais. et l'étude parue en janvier 2026, il y a eu ce temps d'étude qui a été réalisé, entre autres, par deux géologues de l'université de Milan, Serena Perini et Giovanni Mutoni. Eux, à quelle méthode ils vont avoir recours? Parce que c'est une méthode qui est très particulière et un peu technique, mais il faut l'expliquer pour bien comprendre la précision à laquelle on arrive.
Alors nos collègues italiens, là, en fait, ils ne pratiquent pas, si je peux dire, une méthode de datation. Eux, ce qu'ils font, ils étudient les variations du champ magnétique terrestre.
Alors là, il faut parler un petit peu du...
Et donc, voilà, c'est une méthode indirecte de datation, mais qui va se révéler absolument impitoyable, si je peux dire, dans la détermination de l'âge de ces fossiles. Pourquoi ? Parce que le champ magnétique terrestre varie au cours du temps. Donc, le pôle Nord magnétique, qui est différent du pôle Nord géographique, il se balade. Il se balade même assez rapidement. Hein. C'est quelque chose qu'on observe à l'échelle de la vie humaine, hein, même au fil des années. Et puis, en plus de ces variations de cette errance du pôle magnétique terrestre, il y a aussi de temps en temps, enfin, il faut attendre quelques centaines de milliers d'années, hein, de temps en temps, il y a une inversion de ce pôle magnétique qui est créé en fait par le noyau de la Terre, hein, qui est un noyau de fer, de nickel, alors à très haute pression, à très haute température, qui génère un champ magnétique. Et tout ça, dans les entrailles de la Terre, ça bouge, si je peux dire. Et donc, il y a des inversions qui se produisent, et parfois, le pôle Nord magnétique se retrouve au Sud. Donc, la boussole indique le Sud, indique pas le Nord. Et on connaît assez bien l'histoire de ces inversions. Pourquoi ? Ben parce qu'on les a étudiées dans des tas d'autres sites. Hein. Évidemment, ça affecte toute la planète. Et donc, il y a une grande inversion qui a donné la situation actuelle, si je peux dire, du champ magnétique terrestre, qu'on appelle Brune-Matsuyama. On leur donne des noms très poétiques hein, aux inversions et aux périodes qui les séparent. Et on connaît précisément son âge à 773 000 ans, alors à quelques milliers d'années près quand même. Et comment on détermine cela ? Eh bien, parce que au moment de leur dépôt, certaines roches fossilisent, si je peux dire, la direction du champ magnétique terrestre, parce que elles contiennent des petites particules, en général des oxydes de fer, qui s'orientent en fonction du
champ magnétique. Comme des mini-boussoles, finalement.
Voilà, comme des boussoles microscopiques. Alors, par exemple, des laves en fusion, au moment où elles vont se refroidir, eh bien, elles vont fixer le champ magnétique terrestre de ce moment de solidification. Pareil pour certains dépôts. Et alors, il se trouve qu'à la carrière Thomas, la méthode marche formidablement bien. Et nos collègues vont reconnaître précisément dans les dépôts de la grotte, le moment où se produit cette inversion Brune-Matsuyama. En plus, bon, elle est marquée par tout un tas d'événements. Il y a une certaine instabilité du champ magnétique terrestre. Tout ça est très, très bien enregistré dans les dépôts. Et coup de chance absolument incroyable, les fossiles qui ont été découverts par l'équipe se trouvent exactement dans ces niveaux où cette transition entre ces deux périodes inverses et normales se produit. Et donc, alors c'est pas une datation des fossiles, mais c'est une datation indirecte du contexte qui est en fait très précise, beaucoup plus précise que la plupart des datations qu'on obtient généralement pour des fossiles de ces périodes-là.
Pour des fossiles de ces périodes-là, c'est inespéré finalement d'avoir une approximation aussi
absolument,
précise.
Absolument.
Alors, à quel question, finalement, cette datation indirecte nous amène. Je parlais tout à l'heure du fait que, voilà, on parlait de ces mandibules qui présentent des caractères particuliers. Vous, en tant que paléoanthropologue, à partir du moment où vous avez cette datation, comment ces mandibules s'éclairent-elles sous un nouveau jour, d'une certaine façon ?
Alors, non seulement c'est un coup de chance de pouvoir les dater précisément, mais c'est un double coup de chance, hein, parce que il se trouve que entre disons 1 million d'années et 5 600 000 ans, on a très très peu de documents fossiles en Afrique. Et donc cette découverte en fait apparaît comme providentielle puisqu'elle va remplir dans un vide dans la documentation. De plus, les paléogénéticiens qui ont séquencé le génome de Néandertal, de Denisova, qui est le groupe frère de Néandertal, et puis des Sapiens, nous disent la divergence entre toutes ces lignées, ça se passe justement dans ce genre de créneau de temps. Donc on va pouvoir analyser ces fossiles à la lumière de cet état de fait. Et puis, troisièmement, il se trouve que de l'autre côté du détroit de Gibraltar, en Espagne, on a un site qui est près de Burgos, qui s'appelle Grandolina, qui appartient à un complexe de sites, un peu comme à Carrière Thomas. Mmh. Il y a plusieurs sites là-bas, très riches. On a découvert dans ces sites, il y a maintenant un certain nombre d'années, des fossiles qui sont justement datés de cette période-là. Soit en passant, Grandolina, au départ, on l'a daté aussi grâce à l'inversion Brune-Matsuyama. Mmh. Alors, ils sont juste en dessous de l'inversion, mais très près.
Alors, cette date, comment compare-t-on justement à cet Homo erectus de Grandolina ? Est-ce que tout de suite, vous vous dites, cette mandibule, on va la rattacher à l'espèce Homo erectus ? Faut-il créer un homme de Casablanca ? Ça, c'est des questions qui se posent.
Oui, alors, on n'est pas allé jusqu'à créer un nom d'espèce. Mmh. Moi, je trouve qu'on a tendance à en créer un peu trop facilement. Nos collègues espagnols, eux, justement, en ont créé un pour leurs fossiles de
De Grande Dolina.
Bon, c'est un terme, au moins antécesseur, à ma connaissance, qui est utilisé uniquement dans ce site. Disons que ce sont tous ces fossiles, on peut les regarder comme des Homo erectus évolués. Alors, Homo erectus, c'est quoi? Bah, c'est une espèce qui est apparue il y a peut-être 2 millions d'années, qui a évolué en Afrique, qui s'est répandue hors d'Afrique et qui s'est diversifiée et, dans le fond, qui plus tard, beaucoup plus tard, va être à l'origine d'une variété de lignées humaines. On a beaucoup de mal à imaginer ça, hein, mais le monde d'avant, si je peux dire, c'est un monde où il y a plusieurs espèces humaines sur Terre. C'est quelque chose qui, évidemment, très différent de la situation actuelle. On a aujourd'hui une seule espèce humaine qui peuple toute la planète. Mais si on remonte pas très loin dans le temps, disons 40, 50 000 ans, c'est pas du tout le cas. Et donc, ces fossiles de la grotte à Hominidés de la carrière Thomas, en fait, ils ressemblent un petit peu, hein, à ceux de Grande Dolina. Et ils présentent une mosaïque de caractères primitifs, archaïques, qui les rattache à ces Homo erectus. Par exemple, la morphologie de la mandibule, la taille de la denture, certains traits dentaires. Mais en même temps, à Grande Dolina, comme à la carrière Thomas, on a par-dessus ces caractères primitifs, on a des caractères un peu surprenants qui annoncent ce qui va se passer beaucoup plus tard, c'est-à-dire des caractères qui annoncent soit l'homme de Néandertal, soit l'Homo sapiens.
Quels exemples on peut donner de ces types de caractères-là?
La carrière Thomas, par exemple, on a des dents alors qui sont assez primitives par de nombreux aspects, hein, mais par exemple dont les racines dentaires sont pratiquement de la taille de celles que vous et moi nous avons dans notre bouche. Hein. Il y a aussi une réduction très spectaculaire de la troisième molaire, la dent de sagesse. Vous savez que chez l'homme actuel, elle se réduit de façon vertigineuse. Il y a des gens qui n'en ont pas du tout, même. Hein. Mais les Homo erectus, eux, ils en avaient une de belle taille, qui était même plus grosse que la première et la seconde. Hein. Et là, on a déjà une situation qui évoque ce qu'on trouve dans notre espèce.
Cette mosaïque de caractères différents, Jean-Jacques Hublin, est-ce que ça signifie que la divergence entre ces lignées qu'on évoquait, Néandertal, Sapiens, Denisova, est déjà entamée, et que ces individus-là se situent après le début de la divergence, ou bien est-ce qu'on est un peu en amont?
Enfin, notre interprétation de ces fossiles, c'est qu'ils sont très près de cette divergence. Mais maintenant qu'on a ces fossiles africains, on se rend compte que les fossiles de Grande Dolina, en fait, ils penchent un peu, si je peux dire, déjà du côté de Néandertal. Ils ont quelques caractères qui annoncent qu'il va se passer plusieurs centaines de milliers d'années plus tard en Europe. Et donc, ce qu'on pense, en fait, c'est qu'on est près de la divergence, mais probablement juste après. De mon point de vue, hein, les différences qu'on a entre Grande Dolina et puis la carrière Thomas sont des différences interpopulationnelles, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire c'est de la diversité dans une espèce. Voilà, on est sur des continents différents, il y a quand même une différence d'âge. Mais c'est pas une différence de l'ordre de l'espèce, par exemple. Hein. C'est des choses assez, dans le fond, subtiles comme différence.
Ces fossiles préhumains, Jean-Jacques Hublin, quelles autres études vont être conduites sur ces fossiles-là? Est-ce qu'il y a d'autres travaux, d'autres questions qu'on va leur poser? Puisque quand c'est aussi précieux, on imagine qu'on veut exploiter à fond ce type de vestiges.
Les fossiles d'hominines, bon, on les étudie. On étudie leur morphologie, leur anatomie. Alors aujourd'hui, on a des tas de techniques d'imagerie. C'est-à-dire qu'on peut aller voir à l'intérieur des tissus dentaires, des traits qui sont invisibles de l'extérieur. Hein. Par exemple, la topographie du joint entre l'émail et la dentine qui se trouve sous l'émail. Et puis, on a surtout des outils mathématiques, hein, pour étudier tout ça. Donc ça, le travail, il est fait, si je peux dire. Alors la paléanthropologie, elle s'est dirigée ces derniers 20 ou 30 ans aussi dans une autre direction qui est la direction de la chimie, en fait. On étudie la composition des fossiles eux-mêmes. Alors, de l'ADN, évidemment, tout le monde a entendu parler de ça, mais là, sur ces fossiles aussi anciens, il n'y en a plus. Mais il y a d'autres molécules qui sont intéressantes, des molécules organiques. Et ça, c'est un petit peu devant nous, si je peux dire. Alors, sont des on va étudier des protéines, on va étudier les isotopes de certains éléments dans ces protéines. Et donc, tout ça, ça va donner des indications à la fois sur le comportement, par exemple l'alimentation, mais aussi, on peut faire de la phylogénie moléculaire, si je peux dire, avec les protéines, et construire un arbre. Hein. Et donc, c'est particulièrement important de le faire. Pourquoi ? Parce que à Grande Dolina, on l'a déjà fait. Donc, on sait à quoi ressemblent certaines protéines contenues dans les fossiles Grande Dolina. Donc, c'est vraiment important maintenant d'aller regarder ce qui se passe là dans ces fossiles marocains.
C'est les travaux à venir. On parle aussi beaucoup de l'origine africaine des espèces humaines diverses et variées. Est-ce que cette étude-là vient définitivement trancher un débat qui n'en était peut-être plus vraiment un sur l'origine africaine de Sapiens?
Vous savez, au début du XXe siècle, quand la paléanthropologie s'est développée vraiment comme science, c'est très difficile pour les Européens d'imaginer que l'origine des hommes actuels ne se trouve pas en Europe. Et donc, pendant très longtemps, on a eu des modèles d'origine de l'humanité actuelle qui, dans le fond, enracinaient les populations actuelles dans des formes archaïques locales. Par exemple, les Asiatiques actuels, on disait, ce sont des Homo erectus chinois ou indonésiens qui ont donné ces gens-là. Alors, en fait, ce modèle, il a quand même été complètement remis en cause. D'abord parce que on s'est rendu compte que on trouvait des fossiles d'Homo sapiens très anciens en Afrique et pas ailleurs. Et puis surtout parce que la génétique a montré que la diversité génétique des humains actuels ne pouvait s'expliquer que par une émergence de notre espèce en Afrique et puis ensuite une sortie d'une branche qui s'est diversifiée sur le reste de la planète. Donc, de mon point de vue, cette histoire de l'origine africaine d'Homo sapiens, elle a été réglée à la fin du XXe siècle. Mais il y a toujours des foyers de résistance, et c'est bien, hein, la science, c'est un débat. Hein. Et donc, de temps en temps, on agite un peu cette idée que peut-être en Chine, ou peut-être même en Europe, ou au Proche-Orient, on pourrait avoir, alors non pas les sapiens les plus anciens, puisqu'on sait qu'ils sont africains, mais les ancêtres.
C'est vous-même qui l'avez démontré.
Les ancêtres, oui. Les ancêtres de ces fossiles. Et donc, comme justement on avait une absence de documentation en Afrique au-delà de 500 000, on pouvait, c'était de la spéculation, mais on pouvait se dire peut-être que ça s'est passé ailleurs, puis ils sont revenus en Afrique. Bon, là, je pense que maintenant, avec les trouvailles de la carrière Thomas, on a planté le dernier clou dans le cercueil de l'origine eurasiatique d'Homo sapiens.
La carrière Thomas n'a donc pas dit son dernier mot et on espère qu'elle a encore beaucoup de mots à nous dire malgré, vous le disiez, cette pression foncière qui s'exerce doucement mais sûrement sur ce site archéologique majeur. Merci beaucoup à vous Jean-Jacques Hublin d'être venu à ce micro aujourd'hui. Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansini, à la réalisation Hélène Trigueros. Merci à Mineta Djawara, aujourd'hui à la technique, et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.